8h sur Radio J. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024, 210e jour de guerre contre le Hamas et toujours 133 otages dans la bande de Gaza. Effectivement, il est 8h sur Radio J. Merci de nous rejoindre dans quelques instants. Le journal avec Etanit Belaïch qui est avec nous. Bonjour Etanit.
Bonjour Elana.
Et oui, toujours avec nous le vendredi en direct en studio. Nous serons aussi avec Pascal Sunshine à Jérusalem à partir de 8h07. 8h20, notre invité Raphaël Gottfarstein, fondateur de La Relève et notamment celui qui organise les voyages de la mémoire avec Chalem, son association qui fait partir chaque année des centaines de jeunes gracieusement, et donc un voyage prévu au mois de mai, on en parlera. Et puis à 8h30, le rendez-vous des communautés, et ce matin direction la communauté de Chartres et d'Eure-et-Loir avec Julien Teboul, président donc de cette communauté juive, la chronique gastronomique également de Gilles Pudlowski et la santé avec le docteur Serge Raphaël comme chaque matin. Donc l'actualité est à 210e jour de guerre et on apprenait ce matin la mort d'un nouvel otage en captivité.
Dror Hor, 49 ans, qui faisait partie des Israéliens pris en otage par le Hamas au kibboutz de Be'eri. Il aurait été tué dès le 7 octobre. C'est ce que déclare son kibboutz. Son corps est donc toujours détenu à Gaza. Yonat, son épouse, a également été assassinée dans la maison du kibboutz et leurs deux enfants, Noam, 17 ans, et Alma, 13 ans, ont eux été kidnappés mais relâchés en novembre lors du premier accord de cessez-le-feu signé par Israël et le Hamas.
Et justement, au sujet des négociations pour la libération des otages, Israël attend toujours la réponse du Hamas à sa proposition.
Une proposition que le secrétaire d'État américain juge extraordinairement généreuse. Le Hamas est le seul obstacle à un cessez-le-feu immédiat, a pour sa part indiqué Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. Les principales objections viennent du chef du groupe terroriste à Gaza, Yahya Sinwar, qui exige notamment la fin inconditionnelle de la guerre. Sinwar qui s'oppose également à ce qu'Israël ait le droit d'interdire l'accès de la Judée-Samarie à certains terroristes palestiniens. Par conséquent, selon le Wall Street Journal, Israël s'attend à ce que le Hamas rejette tout accord.
Sur le front nord, cette nuit, Israël aurait frappé en Syrie. À Damas, 8 soldats syriens ont été blessés.
C'est ce que rapportent les médias d'État syriens, sans confirmation pour l'instant du côté d'Israël. Cette frappe visait une base syrienne utilisée par le Hezbollah. Par ailleurs, Tzal a ciblé plusieurs membres du groupe terroriste repéré dans des bâtiments utilisés pour attaquer hier la région du Mont Dov en Israël.
Et puis la France propose un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.
C'est ce qu'indique le journal libanais Al-Akhbar. Il comprendrait le retrait des terroristes à une distance de 10 km au nord du fleuve Litani et le démantèlement du Hezbollah près de la frontière. Paris propose aussi que l'armée libanaise soit déployée dans la zone. Les discussions portent également sur la démarcation de la frontière terrestre entre Israël et le Liban.
Et puis concernant Gaza, le Premier ministre israélien a une nouvelle fois promis d'opérer à Rafah contre le Hamas.
Nous ferons ce qu'il faut pour gagner et triompher de nos ennemis. Le chef de l'exécutif a également précisé qu'il y avait toujours des désaccords sur les opérations en cours et à venir, mais que Tzal opérerait bien sur les différents fronts. Écoutez.
Nous sommes tous engagés à obtenir la victoire et nous devons rester concentrés pour remplir cette mission. Il y avait et il y a des divergences d'opinion entre nous concernant les opérations à mener sur les fronts lointains et proches. Mais au terme des discussions, j'ai pris une décision et la décision a été prise. Nous avons agi là-bas et nous agirons ici également. Nous ferons ce qui est nécessaire pour vaincre notre ennemi, y compris à Rafah.
Le Premier ministre israélien, pour sa part, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, a réitéré l'opposition des États-Unis à une opération à Rafah.
Les manifestations anti-israéliennes se poursuivent aux États-Unis, obligeant hier le président américain à s'exprimer.
Les manifestations sur les campus ne m'ont pas emmené à reconsidérer ma politique concernant Gaza. C'est ce qu'a indiqué Joe Biden, qui a estimé que l'ordre devait prévaloir. Plus de 2000 personnes ont été interpellées depuis le 17 avril sur une trentaine de campus. On écoute le chef d'État américain.
Une manifestation violente n'est pas protégée. Une manifestation pacifique l'est. C'est contraire à la loi quand il y a de la violence. La destruction de biens, ce n'est pas une manifestation pacifique. C'est contraire à la loi. Le vandalisme, l'intrusion par effraction, le cassage de fenêtres, la fermeture des campus, poussée à l'annulation des cours et des examens, rien de tout cela n'est une manifestation pacifique. L'opposition est essentielle à la démocratie, mais l'opposition ne doit jamais conduire au désordre ou à la négation des droits des autres étudiants à finir leur semestre et leur formation universitaire. Il y a le droit de manifester, mais pas le droit de semer le chaos.
Joe Biden hier depuis la Maison-Blanche.
Et puis en France, on l'apprenait hier également, un Sciences Po annonce la fermeture de ses principaux locaux à Paris.
Après un débat interne sur le Proche-Orient hier matin, qu'ils ont jugé décevant mais sans surprise, les étudiants du comité Palestine de Sciences Po Paris ont de leur côté annoncé hier soir le début d'une grève de la faim en solidarité, disent-ils, avec les victimes palestiniennes.
Et puis enfin, pour terminer, Guillaume Meurice, suspendu par Radio France après avoir réitéré ses propos sur Benjamin Netanyahou, il l'avait nazifié.
Il y a des choses qu'on peut dire, par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi, mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur a dit c'est bon. C'est ce qu'avait déclaré le chroniqueur sur France Inter le week-end dernier en référence au récent classement sans suite d'une plainte à son encontre qui l'accusait d'antisémitisme. L'humoriste est aujourd'hui dans l'attente d'une éventuelle sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement.
Merci beaucoup Etanit, on vous retrouve tout au long de cette édition sur Radio J. Montpellier avec 19 degrés. Et puis en Israël, il fait toujours assez chaud, 25 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et plus de 35 à Eilat. Et un point sur l'infotrafic en région parisienne. Avec ses nombreux jours fériés, le mois de mai est propice aux escapades hors de la région parisienne et particulièrement ce week-end du 4 et 5 mai coincé entre la fête du travail du 1er et les 8 et les 9 mai. Une fenêtre de tir qui n'a évidemment pas échappé aux amateurs de ponts et week-end prolongé dans ces conditions. Eh bien, circulation très difficile en Ile-de-France aujourd'hui. Bison futé, voire rouge ce 3 mai dans le sens des départs. Donc circulation effectivement compliquée, dense en direction des différentes barrières de péage, notamment sur les autoroutes A6 et A10 dès la fin de la matinée et jusque tard dans la soirée, ainsi que sur le boulevard périphérique, les autoroutes A86 et A6B, l'autoroute A13 pourrait également être encombrée dès le début de l'après-midi. Et justement, puisqu'on parle de l'autoroute A13, fermeture de l'A13 entre Paris et Vaucresson, comment profiter de la réduction sur l'autoroute A14? Ben oui, du lundi 6 au vendredi 10 mai, hors jour férié, le ministre des Transports a fait cette annonce, la prise en charge par l'État de 50% du péage de l'autoroute A14 pour les covoitureurs. Dans les transports en commun, RER B et D interrompus ce week-end, nouveau week-end de travaux sur le RO, le réseau SNCF. Renseignez-vous avant de vous rendre en gare. Et puis ce matin, d'ores et déjà, trafic perturbé aussi sur les lignes de Transilien, sur la ligne J, la ligne P et la ligne R.
Radio J.
Le 6-9. Hélène Ferradian.
210e jour de guerre donc contre le Hamas mais aussi contre le Hezbollah et on en parle comme chaque matin avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin et ce matin malheureusement on apprend la mort d'un nouvel otage en captivité, Pascal.
Oui, encore une confirmation de décès d'un otage, Dror Or, 49 ans, du kibbutz Be'eri. De nouveaux éléments ont permis d'établir qu'il avait été assassiné le 7 octobre par les terroristes du Hamas qui avaient ensuite enlevé son corps. Sa femme, Yonit, avait aussi été assassinée et leurs deux enfants pris en otage, Noam, 17 ans, et sa sœur Alma, 13 ans. Les deux adolescents avaient, eux, été libérés lors de la trêve de novembre. Il reste toujours 133 Israéliens otages aux mains du Hamas, dont au moins 37 ne sont plus en vie. Sur le front nord, des informations en provenance de Syrie font état d'une frappe attribuée à l'aviation de Tsahal hier soir à Damas. La cible serait un site de l'armée syrienne utilisé par le Hezbollah. 8 soldats syriens auraient été blessés selon l'armée syrienne. Ce serait donc la première frappe israélienne en territoire syrien depuis le raid qui avait éliminé le général iranien de la force Quds à Damas le 1er avril dernier. Une opération qui avait déclenché la première attaque directe de l'Iran qui avait tiré des centaines de missiles et de drones contre le territoire israélien le 13 avril. Par ailleurs, au cours de la nuit, des milices pro-iraniennes en Irak ont affirmé avoir tiré au moins 2 missiles de croisière contre Israël. Ils se sont apparemment perdus en route. Et hier, le Hezbollah a tiré plusieurs roquettes vers le secteur de Hardov. La défense antiaérienne a effectué 3 interceptions. Il n'y a pas eu de blessés. Et l'aviation de Tsahal a effectué une frappe ciblée contre des terroristes du Hezbollah au sud Liban avant qu'ils ne lancent leur attaque.
Alors l'autre titre évidemment de l'actualité ce matin, Pascal, ce sont ces négociations, toujours Israël qui attend la réponse du Hamas au sujet de sa proposition et les principales oppositions viendraient surtout du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar.
Oui, hier soir, le cabinet de guerre israélien s'est réuni sans prendre de décision, mais pour faire plutôt un point de la situation. Un peu avant, le Hamas avait indiqué qu'il étudiait dans un esprit positif la proposition de trêve, selon ses termes. Il reste encore plusieurs obstacles majeurs, dont, du point de vue du Hamas, le fait qu'Israël ne veuille pas s'engager sur la fin de la guerre, alors que l'Égypte tente de persuader le Hamas que cela aura lieu au cours de la trêve, durant les négociations qui se poursuivront une fois que la trêve aura été enclenchée. Donc en Israël, on estime que le Hamas pourrait donner une réponse sous la forme d'un oui mais qui permettrait donc de poursuivre les discussions. Le Hamas, ce faisant, renverrait en quelque sorte la balle dans le camp israélien sans opposer de refus catégorique. Mais là, évidemment, on attend encore toujours une annonce formelle de la part de l'organisation terroriste palestinienne.
En tout cas, les États-Unis affichent clairement leur soutien à Israël. On a pu entendre notamment le secrétaire d'État américain hier qui a jugé la proposition d'Israël d'extraordinairement généreuse, Pascal.
Oui, c'est ce que Anthony Blinken avait déjà répété à plusieurs reprises, notamment lors de sa visite avant-hier en Israël et de sa rencontre avec les dirigeants israéliens. L'administration Biden maintenant estime que Israël a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire dans ses tractations et que c'est au Hamas d'accepter cette proposition, donc la plus généreuse soumise jusqu'à présent, en tout cas selon l'appréciation américaine. Puisque Israël accepterait notamment le retour partiel de la population déplacée de Gaza vers le nord du territoire côtier, de libérer des centaines de terroristes palestiniens en échange des otages et de commencer à s'engager aussi dans un processus sur la reconstruction de Gaza à l'issue de la guerre. Mais on sait donc que le Hamas, lui, exige toujours le retour total de la population déplacée, le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza et donc l'engagement d'Israël à mettre un terme définitif à sa guerre contre l'organisation terroriste.
Alors une guerre contre l'organisation terroriste, justement on parle des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken qui a réitéré lors de sa visite en Israël son opposition à une opération à Rafah, mais encore une fois hier le Premier ministre israélien a promis d'opérer dans la ville de Rafah, Pascal.
Oui, là encore, en l'occurrence, une dissonance entre la position de Washington et celle de Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou continue d'affirmer que l'opération à Rafah, donc ce dernier bastion du Hamas au sud de la bande de Gaza, aura bien lieu. C'est aussi à entendre dans le cadre de ces tractations pour la conclusion d'une trêve, dans la mesure où c'est en quelque sorte le dernier levier de pression qui reste entre les mains d'Israël pour forcer le Hamas à accepter cette trêve. Évidemment, si la trêve était conclue, était enclenchée, il est assez probable que l'opération à Rafah serait reportée d'autant ou peut-être limitée dans son ampleur. Là, évidemment, les choses restent encore en suspens.
Alors, Benjamin Netanyahou, qui a fait un discours aussi hier, qui s'est exprimé à l'occasion d'une rencontre avec des survivants de la Shoah, puisqu'on sait que dimanche aura lieu le Yom HaShoah, et notamment à Yad Vashem, et Benjamin Netanyahou, qui a aussi parlé de tout ce qui se passe en dehors du territoire israélien, les manifestations antisémites, notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on en dit, justement, en Israël, de ce qui se passe ?
Il y a une réelle préoccupation et une préoccupation croissante de ce qui se passe sur les campus américains, ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en France. Évidemment, les événements à Sciences Po Paris sont également largement couverts par les médias israéliens. On a entendu d'ailleurs hier le président Herzog s'adresser dans un message vidéo à l'ensemble des communautés juives de diaspora pour les assurer du soutien, de la solidarité d'Israël, de l'anxiété d'Israël face à ce que traversent ces communautés juives qui sont victimes de haine, d'hostilité, d'intimidation. Et le président Herzog les a exhortés à tenir bon et à rester fièrement debout pour lutter pour leur liberté, refuser le mensonge de toutes ces organisations et de tous ces mouvements qui nient aussi non seulement à Israël le droit de se défendre, mais qui soutiennent les massacres perpétrés par le Hamas. Donc on voit une préoccupation réelle et profonde d'Israël pour ce qui se passe pour les Juifs de diaspora.
Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve tous les matins et l'après-midi à partir de 14h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
8h15, l'essentiel de l'info avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Le kibboutz de Be'eri annonce la mort d'un otage en captivité, Dror Or. Il a été tué par le Hamas dès son kidnapping le 7 octobre. Son corps est donc toujours détenu à Gaza en ce 210e jour de guerre. 8 soldats syriens ont été blessés dans une frappe aérienne israélienne dans la banlieue de Damas hier soir. Selon la chaîne saoudienne Al-Adad, cette frappe visait un avant-poste du Hezbollah. Le Hezbollah qui a également été ciblé hier soir par Tsahal dans le sud du Liban après que des terroristes aient été détectés dans des bâtiments militaires du groupe dans la région d'Eita al-Shab. Enfin en France, la direction de Sciences Po Paris a décidé la fermeture de ses principaux locaux aujourd'hui en raison d'une nouvelle occupation par quelques dizaines d'étudiants mobilisés pour Gaza. Le gouvernement redouble de vigilance face aux actions anti-israéliennes sur les campus français.
Merci beaucoup Etanit Belaïch. Etanit, on vous retrouve à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité.
Le 6-9, Radio J.
Radio J. Micro-Sion, c'est votre carte postale d'Israël avec l'ami Xavier Nataf.
Israel Bonds, c'est le nom communément connu de Development Corporation for Israel, le souscripteur américain de titres de créance émis par l'État d'Israël. L'idée d'émettre des obligations émises par le gouvernement israélien a été conçue par le premier Premier ministre, David Ben-Gourion, au lendemain de la guerre d'indépendance d'Israël, alors que la nation manquait cruellement de ressources économiques. Au début, les investisseurs dans Israel Bonds étaient en grande partie des membres de la communauté juive américaine cherchant à soutenir l'économie de l'État naissant. Cependant, au cours des années suivantes, les investisseurs privés et institutionnels ont considéré les obligations israéliennes comme un investissement significatif. Plus de 90 fonds de pension et de trésorerie des États et municipalités américaines ont investi plus de 3 milliards de dollars dans des obligations israéliennes à ce jour. Les autres investisseurs dans les obligations israéliennes comprennent des sociétés, des compagnies d'assurance, des associations, des syndicats de banques, des institutions financières, des universités, des fondations et des synagogues. Israël utilise le produit de la vente des obligations à des fins générales de l'État. Les ventes ont augmenté régulièrement depuis l'émission initiale de l'indépendance en 1951, avec des ventes mondiales totales dépassant maintenant 48 milliards de dollars.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
8h18, nous allons retrouver dans quelques instants Chaim Nissenbaum pour un jour, une mitzvah, une information. Vous le savez, ce dimanche, c'est Yom HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah. Il y aura beaucoup d'événements, notamment qui seront organisés et particulièrement au mémorial avec la lecture des noms des Juifs de France déportés par les convois 22 à 57. 200 personnes au total, anciens déportés, parents, volontaires, enfants, liront à tour de rôle à partir des listes issues du livre Mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld, les noms de ceux dont il ne reste que le nom. On aura l'occasion d'en reparler tout de suite. Chaim Nissenbaum pour un jour, une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. Le Shabbat, c'est le jour où il y a la lecture publique de la Torah, de toute la paracha, la portion hebdomadaire. On a pu remarquer, bien sûr, que pendant cette lecture, trois personnes sont toujours présentes sur l'estrade où on lit la Torah. Bien, c'est l'occasion de se demander pourquoi. En effet, pourquoi trois personnes ? C'est en général le président ou son trésorier, et puis il y a celui qui est appelé à dire les bénédictions lui-même, et il y a bien sûr le lecteur. Alors pourquoi cela ? A priori, cela semble être une simple organisation. Eh bien, cela va beaucoup plus loin. L'un de nos grands commentateurs, le Levouche, éclaire cette cérémonie d'une lumière particulière. Il enseigne qu'ici se retrouvent en symbole trois personnages qui sont finalement les clés du destin de notre peuple. Dieu, Oui, lui-même, Moïse et le peuple juif. Où les retrouve-t-on ? On a dit tout à l'heure que sur l'estrade se trouve un responsable de la synagogue qui appelle à monter à la Torah. N'est-ce pas là le symbole de Dieu qui appelle à respecter sa Torah ? À ses côtés se tient le lecteur. Il représente Moïse, intermédiaire obligatoire, nécessaire dans la transmission de la Torah. Et le troisième, celui qu'on appelle pour prononcer les bénédictions, il incarne le peuple juif. Appelez lui aussi à recevoir la Torah au Mont Sinaï. On le voit, nous sommes loin d'une simple organisation administrative. C'est notre peuple qui est ici en jeu, comme dans chaque acte de notre vie. Bonne journée à tous.
Merci Raïm Nissenbaum, Shabbat Shalom, on vous retrouve chaque semaine et j'en profite d'ailleurs pour vous donner les horaires d'entrée du Shabbat. Ce soir à Paris, 20h51, sortie demain, 22h06, on lira la paracha Acharé Mot. Dans quelques instants, notre invité Raphaël Gottfarstein sur Radio J.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Nous sommes le vendredi 3 mai 2024. Merci d'être avec nous comme chaque matin en direct. Ce dimanche, vous le savez, aura lieu la journée du Yom HaShoah, la journée du souvenir de la Shoah. Et beaucoup d'événements se tiendront ce week-end, effectivement, notamment dimanche au mémorial de la Shoah avec la lecture des noms des Juifs de France déportés par les convois 22 à 57 pour commencer. Quelques 200 personnes, anciens, déportés, parents, volontaires, enfants, liront à tour de rôle. Notamment, on y reviendra. Et ce matin, on va parler aussi de toutes ces choses qui sont organisées, ces expositions notamment, avec le Rav Raphaël Gottfarstein. Il est directeur de La Relève, un lieu d'études et de rassemblement pour la jeunesse juive parisienne, fondateur aussi de Chalem, qui organise des voyages de la mémoire en Pologne. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement.
Merci de m'inviter.
Effectivement, votre association est spécialisée dans les voyages de la mémoire. Chalem qui fait partir gracieusement 100 à 200 jeunes chaque hiver. Et vous étiez il y a quelques semaines en Pologne justement pour un voyage. Vous allez, il me semble, en organiser un autre au mois de mai.
Exact. On n'a pas encore la date exacte du voyage, mais il y en aura un mai ou juin.
Mai ou juin, et il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que vous êtes lancé dans un projet d'écriture d'un Sefer Torah. Alors qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors ça c'est, on va dire, pour avoir un symbole avec nous de renouveau du peuple juif. On a décidé de partir à chaque fois avec un Sefer Torah un peu miniature pour pouvoir le lire sur place, directement à Auschwitz.
Alors ça, voilà. c'est pas encore fait, bien sûr.
Ah bah ça va dépendre des fonds qu'on arrive à lever en fait, qui sont symboliques, on va dire, pour pouvoir financer nos voyages. Donc comme vous l'avez bien rappelé, pour les jeunes avec Chalem, où la participation donc est de 0 euros pour vraiment qu'il n'y ait aucun frein. C'est souvent la participation financière qui est quand même pour des jeunes qui ont pas les moyens même de partir en vacances. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le peu d'argent qu'ils ont pour ça, c'était pas toujours évident. Donc, on voulait vraiment que ce soit pas un frein. Et donc, l'écriture de ce Sefer Torah va permettre, puisque ça fait participer toute la communauté à acheter une lettre dans le Sefer Torah, ça va permettre aussi de financer, surtout, de financer les voyages pour les jeunes et de partir donc avec un Sefer Torah miniature.
Alors, depuis la création de Chalem, ce sont 500 jeunes qui ont pu partir sur des milliers de candidatures. Et en fait, vous, ce que vous dites aussi, c'est que durant 5 jours, ce voyage se veut tout sauf angoissant, en fait.
Effectivement, les gens partent souvent avec un a priori avant de s'inscrire, en tout cas. Parce qu'il y a vraiment une réunion obligatoire avant de partir. Et là, on explique ça très clairement avec des témoignages surtout. Et les gens partent souvent avec l'a priori que, comme Yad Vashem, c'est dur, Mémorial Shoah, c'est très dur. Tout ça, c'est vraiment très dur. Et ils imaginent que c'est 5 jours, on va pleurer pendant 5 jours. Alors que pas du tout. Le fait d'être en groupe, le fait d'aller avec un guide assermenté qui fait ne pas, on va dire, mettre l'émotion trop fort au moment où c'est trop dur, ça permet en fait d'aborder la chose avec, on va dire, c'est difficile à dire quand les gens l'ont pas vécu, donc ils ont du mal à croire, Mais en fait, les gens reviennent avec la pêche. Ils reviennent pas déprimés, ils reviennent pas après 5 jours de pleurs. Ils reviennent avec la pêche, vraiment. Mmh. Vraiment, ils reviennent avec la pêche parce que ça leur donne vraiment, on va dire, l'envie de vivre. Vraiment l'envie de vivre, de construire, de vivre à 100%.
Effectivement. Alors, un voyage donc qui aura lieu au mois de mai, juin. Un voyage au cours duquel vous organisez d'ailleurs des rencontres avec des anciens déportés, des rescapés de la Shoah. Et justement, d'autres événements à venir pour ce dimanche, on l'a dit, ce sera le Yom HaShoah. Vous allez être notamment aux côtés de Martine, une fille de déportée. Alors ça, je ne sais pas exactement où ça se passe, mais ça a lieu dimanche, hein.
Ça a lieu dimanche, ça a lieu à la Relève, donc c'est dans le 9e arrondissement de Paris. Martine, fabuleuse, elle était avec moi en Pologne d'ailleurs il y a 3 semaines. On revient de Pologne, elle était en Pologne pour la première fois. Et Martine, c'est une enfant cachée qui avait 6 ans lorsque la Gestapo est arrivée pour chercher toute sa famille et qu'elle n'a évidemment plus jamais revue. Et donc, elle va nous raconter un peu son histoire, elle sera questionnée, et on a un film fabuleux sur elle qui a été fait par Sophie Naoum dans la série exceptionnelle.
Les Derniers.
Qui s'appelle Les Derniers, voilà, qui sera diffusé avec quelques passages inédits sur son témoignage, et elle sera là avec sa famille. D'ailleurs, elle a eu cette phrase merveilleuse lorsqu'on était en Pologne. Elle a donc 89 ans, hein, si je me trompe pas. Et elle a dit donc voilà qu'elle a maintenant réussi à faire son deuil. Le fait d'aller sur place et d'aller aussi, j'imagine, avec son fils, son petit-fils, et accompagné de sa famille, voilà, et de ce qu'elle a construit, forcément, ça lui a permis de faire son deuil.
Donc ça, ce sera ce dimanche 5 mai à 14h30, et on peut encore s'inscrire, j'imagine, sur larelève.fr.
Ouais, on doit s'inscrire, ouais. la-relève.fr, on peut s'inscrire, on doit s'inscrire, c'est sur inscription.
Donc ça, c'est pour 14h30, et puis vous allez aussi vous exprimer lors d'une conférence dimanche, également un petit peu plus tard, à partir de 17h. Alors, où ça se passe?
Alors, ça, c'est à Boulogne. Au centre culturel de Boulogne. Et ça, c'est aussi fou, cette histoire, parce que c'est un des participants qui s'appelle Stéphane Ziegler, qui a voulu lancer une opération avec à Boulogne pour le Yom HaShoah. Et donc il m'a demandé de, donc j'aurai 2 interventions là-bas. C'est toute une après-midi.
Oui, exposition, stand, conférence, voilà.
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, ça sera les interventions qu'il m'a demandé, surtout vraiment revenir sur cette idée-là de résilience. Il a voulu qu'on parle de toutes les révoltes pendant la Shoah. C'est vrai que c'est un sujet qui est très méconnu. Pardon. Et oui. Donc j'aurai 2 interventions là-bas parmi les interventions du rabbin Didier Kassavi, du président Daniel Benaroum, etc. D'autres et des témoins aussi. Oui. Et donc sur les révoltes pendant la Shoah, donc ce sujet méconnu de les gens connaissent souvent la révolte du ghetto de Varsovie, mais toutes les autres révoltes, et il y en a eu beaucoup. Sont vraiment méconnus, donc on va aborder ce sujet-là.
Les combats des Juifs pendant la Shoah, de la résistance à la résilience, effectivement, ce dimanche 5 mai à partir de 17h, et vous le disiez, avec des témoins, Rachel Braffman notamment, qui a été cachée dès l'âge de 3 ans dans des maisons de Lozé. Vous allez intervenir sur les révoltes juives. On a aussi Jean-Charles Zerbib qui va parler de la marche des vivants, de la destruction à la Renaissance. Donc ça se passe à Boulogne. Il y a encore de la place pour s'inscrire, Raphaël?
Oui, tout à fait, au Centre culturel juif de Boulogne. Donc le lien doit se trouver très certainement facilement sur le site, où ils ont reçu par mail les gens de Boulogne, mais sinon il suffit de m'écrire et je vous envoie le lien.
Super, et ben merci beaucoup Raphaël Gottferstein, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, on peut se renseigner sur le site de La Relève, la-relève, sans
sans eux.fr ou sur le Centre culturel juif de Boulogne. Beaucoup d'événements, effectivement, ce dimanche. Merci Raphaël, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. À noter que dimanche aura lieu la lecture des noms des Juifs de France déportés par les convois 22 à 57. Quelques 200 personnes, anciens déportés, parents, volontaires, enfants, liront à tour de rôle à partir des listes issues du livre Mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld les noms de ceux dont il ne reste que le nom, comme le disait Simone Veil. La cérémonie officielle qui débutera à 18h avec une ouverture au public dès 19h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Il est 8h30, merci d'être avec nous sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et 210e jour de guerre contre le Hamas déjà. On en parle avec Ethanie Velaïch. Et tout de suite, l'information justement avec vous, Tanit, bonjour.
Bonjour Elana, bonjour à tous. Le kibboutz de Be'eri annonce la mort d'un otage en captivité, Dror Or. Il a été tué par le Hamas dès son kidnapping le 7 octobre. Son corps est donc toujours détenu à Gaza en ce 210e jour de guerre. 8 soldats syriens ont été blessés dans une frappe aérienne israélienne dans la banlieue de Damas hier soir. Selon la chaîne saoudienne Al-Adat, cette frappe visait un avant-poste du Hezbollah. Le Hezbollah qui a également été ciblé hier soir par Tsahal dans le sud du Liban après que des terroristes aient été détectés dans des bâtiments militaires du groupe dans la région d'Eita al-Shab. Les milices pro-iraniennes en Irak affirment de leur côté avoir lancé hier un missile de croisière sur Tel Aviv, une information non commentée par l'État hébreu pour le moment. La Turquie a suspendu toutes ses relations commerciales avec l'État hébreu hier. En réaction, le ministre israélien des Affaires étrangères a comparé le président turc à un dictateur. Erdogan bloque les importations et les exportations israéliennes. C'est ainsi que se comporte un dictateur, a déclaré Israël Katz sur le réseau social X. La mobilisation pro-palestinienne continue de faire des remous outre-Atlantique. Au moins 2100 personnes ont été arrêtées à travers tous les États-Unis ces deux dernières semaines, d'après un décompte de la chaîne américaine NBC. En France, la direction de Sciences Po Paris a décidé la fermeture de ses principaux locaux aujourd'hui en raison d'une nouvelle occupation par quelques dizaines d'étudiants mobilisés pour Gaza. Le gouvernement redouble de vigilance face aux actions anti-israéliennes sur les campus français. Enfin, attention, il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes le 9 juin prochain. L'inscription en ligne n'étant plus possible, il faut désormais s'inscrire auprès de votre mairie avant ce soir, si ce n'est pas déjà fait.
Merci beaucoup, Ethanie Velaïch. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 9h sur Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
8h32, dans quelques instants, le rendez-vous des communautés. Oui, c'est votre rendez-vous du vendredi, vous le savez, chaque semaine, une communauté juive en France. Et ce matin, direction Chartres, dans l'Eure-et-Loire, nous serons avec Julien Teboul. À suivre, comme chaque vendredi, également la chronique gastronomique de Gilles Pudlowski. Et puis la santé avec le docteur Serge Raphaël. Et avec Serge ce matin, eh bien, on va revenir sur l'ail. L'ail, ce n'est pas pour les vampires, mais c'est un super aliment santé. À tout à l'heure.
Radio J.
14h-15h. Le grand journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le grand journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le grand journal. 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Merci d'être avec nous et comme promis, c'est à présent le rendez-vous des communautés, votre rendez-vous hebdomadaire du vendredi, direction l'Eure-et-Loire, la ville de Chartres, à moins de 2 heures de Paris. Oui, c'est pas très loin de chez nous et nous sommes justement avec le président de la communauté, Julien Teboul, bonjour.
Bonjour Ilana Ferradian, merci de m'accueillir sur Radio J.
Mais merci d'être avec nous ce matin sur Radio J, ce vendredi 3 mai. Alors effectivement, on parle de votre communauté à Chartres dans l'Eure-et-Loire. On va peut-être commencer par l'histoire de cette communauté qui est très ancienne, hein, parce que j'ai vu que la présence juive chartraine semble dater du 12e siècle, Julien.
Tout à fait. Donc, la présence juive sur Chartres est très ancienne, dès le Moyen-Âge, avec donc un quartier en basse ville, donc au niveau de la rue aux Juifs, et puis beaucoup de commerçants se situaient vraiment dans cette basse ville. Et notre communauté a été créée en 1996 par un groupe d'amis qui voulait faire vivre l'âme juive en Eure-et-Loire et sur Chartres et l'agglomération.
Alors effectivement, Chartres, Eure-et-Loire, aujourd'hui combien de Juifs vivent justement à Chartres et dans ses environs?
Donc actuellement, on est à peu près une trentaine de familles au niveau de la communauté de Chartres.
Oui.
Donc, qui est en évolution depuis le Covid, parce que beaucoup de familles qui habitaient en région parisienne viennent s'installer sur Chartres et en Eure-et-Loire. Et donc, on est vraiment sur une évolution et un rajeunissement de la communauté chartraine.
Alors, une trentaine de familles, effectivement, à Chartres. Comment ça se passe pour les Shabbats? Est-ce que vous avez une synagogue très active?
Non, sur Chartres, on n'a pas de synagogue. Donc, nous, on propose aux membres de la communauté de nous réunir dans une salle que l'on loue pour les différentes fêtes. Après, pour les Shabbatot, on se réunit chez certaines familles qui nous accueillent, ou après également dans la salle. Et après, on propose pour les grandes fêtes, Hanouka, Pourim, la dernière Pourim, où on a fait une lecture de la Megillah, où on était plus d'une soixantaine de personnes pour cette lecture.
Donc oui, c'est plutôt des activités en fait entre familles, pour les fêtes, pour Shabbat, etc.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on travaille également, il y a un grand travail sur le devoir de mémoire sur Chartres, avec l'ensemble des membres de la communauté, avec la participation et les interventions en milieu scolaire. L'année dernière, on a créé une exposition sur les préjugés antisémites.
Oui.
Donc, via une classe de troisième qui a été présentée ensuite au niveau de la préfecture, et également la participation à l'ensemble des commémorations pour les Juifs déportés d'Eure-et-Loire. On a réussi à installer une plaque commémorative en 2019 pour rendre hommage à l'ensemble des Juifs déportés d'Eure-et-Loire.
Effectivement, si l'Eure-et-Loire est bien la terre de Jean Moulin, il a aussi été complice des atrocités commises par les nazis pendant la Shoah, Julien, et il y a eu aussi des rafles à Chartres en 1942, il me semble.
Oui, tout à fait. Il y a bien eu des rafles sur Chartres pendant la Seconde Guerre mondiale, hélas. Et un peu plus d'une 26 personnes Chartres centre ont été déportées.
Alors, on parle de votre communauté de Chartres dans l'Eure-et-Loire, donc pas de synagogue, mais donc des activités et des Shabbatot entre familles. Comment ça se passe pour la cacheroute? Est-ce que vous avez néanmoins des épiceries cachères, des boucheries cachères?
Non, on propose aux membres de la communauté de faire des courses en région parisienne pour tout ce qui est cacheroute, donc dans différents magasins hyper cachères, etc., et qu'on ramène aux membres de la communauté.
Bon, après, vous n'êtes pas très loin de Paris, donc ça va.
Non, une heure de Paris, donc ça se fait très bien en voiture ou en train.
Alors, quel est votre rapport avec le Consistoire central de France? Est-ce que vous comptez organiser des activités avec le Consistoire? Est-ce que vous avez peut-être des projets aussi pour cette année 2024?
Tout à fait. Je me suis mis en relation donc avec Élie Corchia lors d'une dernière rencontre jeudi dernier, avec notre souhait vraiment de nous rapprocher du Consistoire et développer nos relations avec l'ensemble des institutions juives de France.
Oui. Et est-ce que vous allez faire des activités? Est-ce que vous avez des projets? Peut-être là, dimanche, ce sera le Yom HaShoah, donc on a parlé de ce qui s'était passé en 1942. Est-ce que vous allez organiser peut-être des événements particuliers?
Non, pour cet événement, hélas, on n'a pas la possibilité d'organiser, on n'a pas pu venir en amont pour l'organisation de manifestations en l'hommage de l'ensemble des soldats tués.
Oui. Alors on parle de Chartres, la communauté juive de Chartres, vous l'avez dit, une trentaine de familles juives aujourd'hui. Quel est votre lien aussi avec les autres communautés, la communauté musulmane, la communauté chrétienne? Est-ce que ça se passe bien, Julien?
Oui, tout à fait. Sur Chartres, il y a de très bonnes relations avec l'ensemble des communautés. Juste avant le Covid, nous organisions chaque année des rencontres interculturelles sur un thème bien précis. C'est vrai que le Covid a ralenti l'ensemble de ces rencontres, mais néanmoins, je suis en contact régulier avec l'évêché et également l'imam de Chartres, avec qui nous avons d'excellents rapports tout au long de l'année.
Oui, ça se passe plutôt bien. Et puis, j'avais vu aussi qu'en novembre dernier, par ailleurs, il y avait eu un rassemblement contre l'antisémitisme, un petit peu partout d'ailleurs, comme en France. Comment ça se passe justement? Est-ce que vous ressentez, vous, ce climat d'antisémitisme à Chartres, ou est-ce que vous êtes relativement épargné?
On a de la chance sur Chartres, on est relativement épargné. On reste vigilant néanmoins, mais on n'a pas relevé d'actes à caractère antisémite sur Chartres depuis le 7 octobre et même avant.
Eh bien, merci beaucoup, Julien. Si vous avez peut-être un message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices, je vous laisse la parole.
Merci à vous. Donc, je tenais à remercier l'ensemble des instances représentatives Luc de France qui permettent de mettre en avant notre communauté sur Radio J. Vous remercier également. Et puis, tout juif qui vient s'installer en Eure-et-Loire et qui cherche une communauté familiale, voilà, vous êtes les bienvenus, on est à votre écoute et à votre disposition.
Eh bien, merci beaucoup. On ira vous rendre visite à Chartres. On invite tous les auditeurs et les auditrices à visiter votre belle région, effectivement. Merci beaucoup, Julien Teboul. Je vous dis Shabbat Shalom. À bientôt.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Elles sont mères de famille, entrepreneuses, chefs d'entreprise, influenceuses, artistes, universitaires. Elles agissent toutes conjointement en France, mais aussi en Angleterre, aux Émirats, en Allemagne, aux États-Unis. Des femmes déterminées qui unissent leurs forces avec un objectif commun, sensibiliser les populations sur les conséquences des conflits afin d'encourager la médiation plutôt que la violence. C'est le collectif Women United for Peace. Et nous sommes ce matin avec Joy Jaoui, cofondatrice du collectif, et Sandra Ifra, porte-parole du collectif. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Women United for Peace. Alors, on vous avait déjà reçu, Sandra, il y a quelques semaines pour en parler. Pour ceux qui n'ont pas écouté cette interview, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment est né ce projet?
Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin. On est très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au lendemain des attaques du 7 octobre, comme vous savez, il y a beaucoup de groupes qui ont été créés. Des groupes plutôt de soutien, des groupes d'échange d'informations sur WhatsApp notamment. Et nous, tout de suite, on a eu envie d'agir. Oui. Et on a eu envie de créer un groupe d'action. Et donc, ça a commencé, on était une petite vingtaine. Oui. Et puis rapidement 40, et puis rapidement 100. Et aujourd'hui, on est plus de 600 sur WhatsApp. On est plus de 6000 sur Instagram. Les actions ont été partagées et sont partagées, je dirais, sur deux pôles principaux. Déjà, on a décidé, comme vous le savez tous, que la lumière vaincrait sur les ténèbres. Ouais. Donc, on a tout de suite créé nos bougies. On a tout de suite créé des installations lumineuses. Par exemple, au pont des Billys, sur l'esplanade de Ben Gourion. Ouais. On a fait une très très jolie installation. Et puis rapidement, on a soutenu des associations.
Alors justement, on va parler de tout ce que vous organisez, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord pour le jour de l'indépendance, Yom Ha'atzmaout, qui aura lieu lundi 13 mai, vous allez organiser une soirée au profit de l'association Tzedek.
Alors, le 14 mai,
ne pas confondre avec l'association antisioniste Tzedek, évidemment, qui sévit sur le territoire français, mais effectivement une association qui vient en aide plutôt aux enfants en Israël.
Joy va vous en parler.
Oui, exactement. Donc, c'est une association. Donc, comme je vous disais, on soutient aujourd'hui les associations. On est resté un collectif.
Ouais.
Et donc, on aide. Et pour le 14 mai, c'est l'association Tzedek. Qu'est-ce que c'est que cette association? Elle a été créée il y a plus de 40 ans en Israël par un rabbin qui s'appelle Paul Reutemann, qui était français, enfin, qui est né en Pologne, qui a venu en France, qui est parti faire son alia en Israël et qui a quitté quelque part le rabbinat pour l'éducation. Il a décidé de s'occuper des enfants défavorisés dans les quartiers les plus défavorisés. Et qu'est-ce qui se passe en Israël? Contrairement à chez nous, l'école termine très tôt.
Ouais.
Et donc, soit vous avez la chance d'avoir une famille qui peut s'occuper de vous, les activités extrascolaires, les devoirs, tout ça, soit vous l'avez pas et vous êtes dans la rue. Et donc cette association s'occupe aujourd'hui de plus de 2000 enfants qui sont défavorisés. La moitié de ces enfants sont dans des familles, quand même, je dirais, de schéma classique, et la moitié sont dans ce qui a été créé en Israël, des villages pour enfants.
Alors ça, c'est le 14 mai, donc une soirée, on peut encore y participer, comment y participer ?
Bien sûr, alors en fait, je vais vous raconter un petit peu comment ça va se dérouler. On a la chance donc de créer un thème sur les enjeux de la paix, avec Gilles Kepel, que vous voyez beaucoup sur les antennes, qui est politologue, et Laura Blajman-Kadar, qui est, vous savez, une rescapée, une survivante du massacre du 7 octobre, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Qui a publié un livre, comme Le Croire en la vie. Gilles Kepel, Holocaust, c'est très complémentaire parce qu'en fait on a voulu via Woman montrer deux images, à la fois évidemment reparler des otages et de tout le massacre du 7 octobre, et vous verrez lors de cette soirée, je pense que le témoignage de Laura va être bouleversant, on apprend plein de choses, on pense tout savoir, et ayant lu le livre, ayant échangé avec elle, non, on ne sait pas tout, donc on en apprend encore aujourd'hui. Et puis avec Gilles Kepel, que je n'ai plus besoin de présenter, politologue, on va justement parler d'Israël, de Gaza, de la guerre contre l'Occident, de l'actualité également, parce que Woman, c'est aussi de la pédagogie en plus de la solidarité. Et donc, on a la chance avec Ruth Elkrief qui nous fera l'honneur de débattre avec eux.
Effectivement, donc rencontre animée par la journaliste Ruth Elkrief. Ça se passe dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, il nous reste vraiment très, très peu de temps. Si on veut participer et si on veut devenir membre aussi du collectif, comment faire ?
Sur Instagram, vous pouvez tout simplement nous contacter soit via le site internet Woman United for Peace, nous écrire, ou bien voir toutes nos actualités et pourquoi pas ensuite faire des actions avec nous. On a encore besoin de femmes, de bénévoles. Et je rappelle juste que malgré le nom Woman United for Peace, pour la soirée, pour le petit déjeuner du 14 mai, les hommes sont évidemment welcome.
Vous n'êtes pas sectaire.
Non, heureusement.
Merci beaucoup.
Merci Joy à vous, Jaoui,
merci Sandra Ifra d'avoir été avec nous sur Radio J. Effectivement, donc une soirée le 14 mai à l'occasion du Yom HaTzmaout, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.
On aura d'autres soirées à présenter.
Eh bien, on en parlera. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Merci de nous rejoindre comme chaque matin et le vendredi matin. On parle gastronomie avant Shabbat, ça fait du bien. Avec Gilles Pudlowski, notre spécialiste de la gastronomie, la bonne gastronomie. Bonjour, shalom Gilles.
Bonjour Ilana.
Comment ça va ce matin ?
Ça va toujours très bien quand on parle de choses agréables.
Oui, forcément. Et en plus, vous étiez à Tel Aviv, vous allez très souvent à Tel Aviv. Et là, vous faites...
Très souvent, j'y vais de temps en temps. Mais
quand même.
Comme je dis, c'est le moment d'y aller vraiment et de se dire que c'est le moment d'aider un peu les
C'est vrai, de
bien,
soutenir.
Les restaurants vont très bien. D'ailleurs, je vais vous parler d'une maison qui est complète quasiment 10 jours à l'avance.
C'est ça, Tomertal.
Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à avoir de la place. Il s'appelle le restaurant s'appelle George et John. L'hôtel, c'est Drisco Hotel. Ouais. Le chef s'appelle Tomertal.
Drisco Hotel.
Tomertal, je vous en ai déjà parlé. C'est le jeune loup du moment. Il a un peu maigri. J'allais dire qu'avant c'était un grand rondouillard et barbu, maintenant c'est un grand souriant barbu, voilà, il est plus rondouillard du tout. Il est, très fin, technicien, très fin cuisinier, tout ce qui touche, il le réussit. Et puis la nouveauté évidemment de l'endroit, de l'hôtel où il
est. Donc c'est un restaurant dans l'hôtel.
Restaurant qui est ouvert que le soir, ça s'appelle Gilbert et John. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'hôtel en question, le Drisco, est un endroit historique qui a été le premier hôtel de Tel Aviv à l'époque des Ferdisco. Eh bien, cet hôtel aujourd'hui est le premier ou le dernier ou le seul et unique relais château d'Israël. Voilà. Autrefois, il y avait le Mitzpah Yamim en Galilée. Il y a eu également la Maquette Colonie à Jérusalem. Mais le seul et unique relais château d'Israël, c'est extraordinaire.
Il est où alors le Drisco hôtel,
Il est à la limite de Jaffa et de Tel Aviv.
Ah oui.
Et c'est là, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est là que j'ai connu, il y a 30 ans je crois, Chaim Cohen, qui est la star de la cuisine israélienne aujourd'hui, qui se trouve à Yafo Tel Aviv. D'ailleurs, Yafo Tel Aviv, ça voulait dire mon itinéraire, va Jaffa Tel Aviv. Il a démarré là, et aujourd'hui, donc, c'est devenu un hôtel de grand luxe.
Alors, qu'est-ce qu'on peut manger à Gilbert et
John?
Alors,
on peut manger mille choses formidables, mais ce que j'allais vous dire, quand même, c'est que Thomas, c'est quelqu'un qui est un fou du bon produit. Il est venu à Paris il n'y a pas très longtemps pour visiter Rungis. Et je crois que les produits chez lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Par exemple, j'ai mangé un truc qui était formidable, c'est un légume tout bête, qui n'est pas forcément une bonne non-invitation, c'est le chourave, qui sert fumé avec une huile de ciboulette, du zatar, hein, qui est un mélange d'épices, comme vous le savez, et la grenadine. C'est vraiment un truc tout à fait étonnant, superbe. À côté de ça, c'était un expert en poisson cru. Il a souvent été très bon sur les sashimis, sur les crudos. Il fait un sashimi de céréales au yuzu qui est absolument superbe. Alors, il est très bon également sur les poissons en règle générale. Tartare de thon qui sont très bons, qui ont beaucoup de goût. Parce que
donc, c'est plutôt du poisson. Hein.
Plutôt du poisson, voilà. Mais je vais vous rassurer, il n'y a pas seulement du poisson, il y a également un tataki d'entrecôte. Donc une entrecôte tapée à la japonaise, quelque chose de superbe.
Et on peut voir d'ailleurs les photos sur votre blog.
Absolument, qui est paru il y a très peu de temps. Voilà, avec une brioche à la moelle. C'est magnifique, c'est beau, c'est bon, c'est léger, c'est pas très cher contrairement à ce qu'on raconte, parce que on vous dit restaurant de Tel Aviv, c'est très cher.
Alors c'est-à-dire combien? Combien il faut payer pour un plat?
C'est effectivement des repas autour de 90-100 euros, mais le même prix pour un restaurant de cette qualité en France, ça serait le double. C'est-à-dire les restaurants étoilés de Paris, ils sont à combien aujourd'hui? C'est vrai. Fou. En plus, on a bu un pinot noir de chez Vidkin. Vidkin, je vais vous en parler, c'est Asaf Paz, l'œnologue. C'est un Israélien francophone qui a pris l'œnologie en France. Et il fait un pinot noir formidable, digne d'un Grand Bourgogne, qui était vendu quelque chose comme 49 euros, ou 50 euros, ou 40 euros. Et le prix d'un Grand Bourgogne, le Grand Bourgogne, ça vaut beaucoup plus cher. Et alors, il y a aussi un truc que je recommande, c'est les pâtes au crabe. Les pâtes au crabe, ça, c'est vraiment tombé par terre. Hein, avec,
bon, c'est pas cachère, mais...
Ouais, c'est pas cachère, donc c'est très bon. Voilà, encore meilleur, comme disait l'autre. J'ai un ami, c'est pas grave, il y a toujours, quand c'est pêché, c'est encore meilleur, voilà. Eh bien, il y a également un dessert qui est cachère, lui. C'est un dessert au maïs.
C'est original, ça.
Comment dire, avec... il mélange cornflakes, maïs, madeleine, crunch de cornflakes, cornflakes craquants, si vous voulez, glace maïs, écume de maïs.
C'est pas écœurant, ça.
C'est les céréales poudre de popcorn à tomber par terre. Franchement, c'est le grand instant du moment qu'il faut découvrir. Il y a également un tiramisu à l'orange sanguine avec un biscuit savoyard au Quattro. Les crèmes d'orange sanguine, voilà, il y a également une mousse au chocolat noir pour ceux qui aiment le chocolat.
Eh bien, merci beaucoup. Voilà.
Vous appelez de ma part, hein, vous serez bien
sûr. Bien sûr.
George and John, Disco Hotel.
Gilbert and John.
George and John.
Ah, c'est George and John.
Gilbert et George, c'est deux artistes queer anglais, vous savez. Mais pour les confondre.
Très bien, merci beaucoup.
Voilà, Hotel, et c'est Tombertal, le chef.
Tombertal. Merci, Gilles. Et à la semaine prochaine. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Le 6-9.
Radio-J.
La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Raphaël. Il est avec nous en direct. Bonjour Serge.
Bonjour Ilana, on va rester dans les conseils santé et gastronomie.
Dans les conseils gastronomiques, effectivement. Alors ce matin, on va parler de l'ail, non pas pour les vampires, Serge, mais parce que vous souhaitiez revenir sur les propriétés de l'ail, qu'il soit blanc ou noir, car vous le considérez comme un super aliment santé, effectivement, qui devrait par conséquent se trouver encore plus régulièrement sur nos tables.
En effet, Ilana, l'ail, bon, c'est une plante potagère herbacée qui est originaire d'Asie centrale. C'est de la famille des aliacées, bien sûr, mais dont font également partie l'échalote, l'oignon, le poireau. Et en fait, c'est le bulbe qui est composé d'une quinzaine de gousses que nous ingérons pour ses propriétés nutritionnelles et médicinales.
Alors l'ail, pour vous, docteur, c'est une des plus grandes plantes médicinales, hein?
Oui, et aussi loin qu'on remonte dans le temps, il est utilisé dès l'Antiquité pour ses vertus nombreuses et variées. Il est distribué aux bâtisseurs des pyramides, réputé leur donner force, courage, résistance. Il est depuis longtemps, pour ne pas dire toujours, préconisé contre les infections. Et lors des grandes épidémies de peste, beaucoup se protégeaient non pas d'un masque en papier comme on l'avait, mais en s'entourant le cou d'un collier d'ail. Alors, il est historiquement intéressant contre les problèmes respiratoires et à présent surtout conseillé pour ses propriétés protectrices cardiovasculaires. Il est fluidifiant circulatoire, il dissout les petits caillots et l'OMS d'ailleurs reconnaît son usage comme traitement complémentaire des mesures alimentaires visant à diminuer les chiffres des graisses, le cholestérol, les triglycérides dans le sang. Certaines études avancent qu'il réduirait les cancers de l'estomac et de l'intestin a confirmé, tout comme son action contre les maladies neurodégénératives, où il pourrait améliorer la mémoire. Je reste, Ilana, au conditionnel, oui. Faute de preuves indiscutables.
Et ce qu'il faut dire, c'est que la composition de l'ail est assez intéressante.
Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de graisse, il y a très peu de sucre, de protéines, de fibres. En revanche, il contient des minéraux, notamment du cuivre, du manganèse, du phosphore, du sélénium, des vitamines, la vitamine B6 dynamisante, de la vitamine C, de nombreux antioxydants, des flavonoïdes, les tocophérols de la famille de la vitamine E, et les saponines qui lui procurent son effet hypocholestérolémiant. Et son efficacité est surtout due à un composé, l'ailine, qui se transforme en allicine lorsqu'il est coupé ou écrasé. Et cette substance a des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, antioxydantes. Léger inconvénient que nous connaissons tous, elle parfume désagréablement la laine et le corps, puisqu'elle est éliminée non seulement par la respiration, mais aussi par la sueur et l'urine.
Alors, y aurait, dit-on, quelques réserves récentes sur son efficacité réelle à l'ail?
Oui, sur certaines de ces actions, les résultats bénéfiques sur le cholestérol et la tension sont variables d'une étude à l'autre sans faire l'unanimité des chercheurs. Et les quantités surtout qu'il serait nécessaire d'ingérer pour obtenir un effet bénéfique sont en réalité difficiles à atteindre, 1 à 2 gousses d'ail frais par jour. L'ail en poudre posséderait moins de vertus que l'ail frais.
Des effets indésirables à la consommation d'ail, Serge ?
Oui, outre l'halitose. Hein. L'halitose, c'est la mauvaise haleine là, qu'on voit souvent dans les personnages chez Fedo. Sa consommation excessive peut entraîner des gaz, des brûlures, des douleurs digestives. L'ulcère de l'estomac constitue d'ailleurs une contre-indication classique. En raison de son action fluidifiante, mieux vaut éviter d'en ingérer de grandes quantités lors de la prise d'anticoagulants, avant un geste chirurgical ou même des soins dentaires qui risquent de nécessiter un arrachage. Et pour les mêmes raisons, attention aux associations avec des plantes qui ont une petite action anticoagulante, comme le ginkgo biloba, le ginseng, le saule blanc.
Mmh. Alors, vous vouliez aussi nous parler de l'ail noir.
Oui, parce qu'on parle souvent de l'ail blanc, on parle de l'ail rose de la région du Tarn. Et il y a l'ail noir, il est de plus en plus populaire comme condiment ou complément alimentaire. Pas seulement parce qu'il est originaire du Japon où l'on vit vieux, hein, les centenaires d'Okinawa dont on parle parfois dans cette rubrique. C'est le même bulbe d'ailleurs que l'ail blanc, mais il a subi quelques transformations chimiques. Alors il est mis à sécher plusieurs semaines sous une atmosphère contrôlée avec une température élevée, 60-90 degrés, et un fort taux d'humidité. Et puis il subit pendant quelques semaines une phase de maturation, ce qu'on appelle nous une glycation, une caramélisation, un petit peu comme la croûte du pain trop cuit. Alors c'est pas vraiment une fermentation, hein, c'est vraiment une caramélisation. Et c'est pendant cette phase qu'il prend sa couleur noire, sa texture moelleuse, sa saveur particulière douce et sucrée, et qu'il se concentre surtout en composés phénoliques et organosulfurés qui décuplent ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et cardioprotectrices. C'est donc un remarquable condiment santé qu'on peut se procurer dans les épiceries fines plutôt qu'en parapharmacie d'ailleurs.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge?
Bah, écoutez, il y a un proverbe auvergnat, Ilana, qui dit « Oignon le matin, ail le soir font le malheur du médecin ». Peut-être le malheur du médecin, peut-être aussi celui de leur compagne, mais assurément, c'est un aliment qui est très très bon pour la santé des patients.
Eh bien, merci beaucoup. Ne pas manger d'ail, évidemment, avant un date, hein, les amis, on vous conseille.
Oui.
Merci beaucoup, cher docteur. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. À lundi, Serge.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Le concours de l'Eurovision aura lieu du 7 au 11 mai prochain. Et oui, ça approche. Il aura lieu en Suède, à Malmö. Et Jérusalem a déconseillé encore hier soir les séjours dans la ville suédoise de Malmö, craignant des manifestations anti-israéliennes, évoquant les projets de ces manifestations et des appels à s'en prendre à des juifs et à des israéliens. Le Conseil de la Sécurité Nationale, organisme dépendant du Premier ministre en Israël, s'inquiète que des cellules terroristes profitent
de ces manifestations et du climat anti-israélien pour mener des attaques contre des Israéliens. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on parlait de ce qu'avait indiqué le Shin Bet à l'équipe de Eden Golan, un représentante de l'Eurovision, qui avait demandé à ses équipes de ne pas quitter leur chambre d'hôtel pendant toute la durée du concours. Eden Golan, toujours en tout cas en deuxième position du classement des chansons les plus appréciées de l'Eurovision, avec Hurricane. Son clip est l'un des plus aimés sur YouTube, juste derrière les Pays-Bas et devant l'Ukraine. Eh oui, on aime bien Eden, hein.
Reprocher d'avoir dit Hurricane.
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 Qui signifie
ouragan.
Et voilà.
Et voilà, tel un ouragan. On est sur une autre ambiance là. Alors Léa, on vous retrouve dans à peine 2 minutes.
Hein. Absolument.
Même pas.
Eh bien écoutez, comme tous les vendredis, on fait la visite au rabbin.
Oui.
Avec un jour une synagogue. Ensuite, question de société et de judaïsme. Et puis le commentaire de la paracha. Et juste avant, Bété Avon, aujourd'hui avec Magali, on va parler de chalot.
Ah, j'adore les chalot.
Les chalot en forme de clé. Pourquoi la réponse tout à l'heure.
Je connais la réponse, mais je ne dirai rien. Eh bien, je vous dis à tout de suite.
À tout de suite.
Radio G.
Le Yiddish Show.
Liz Gutman.
Retrouvez-moi tous les samedis soirs à partir de 22h pour le Yiddish Show. Au programme, des invités, de la musique yiddish, klezmer, du théâtre, des auteurs.
Radio G.